Bonjour tout le monde. Voilà, j'aimerais parler un peu sur Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, vous connaissez bien ce passage. Je pense que Michael l'a cité aussi dans sa prédication il y a quelques semaines. C'est le passage où Ésaïe a une révélation de la présence de Dieu du ciel. Et alors, si lui, c'était très clair, c'était visuel, en fait, c'était une vision vraiment claire et nette, nous devons tous, les uns et les autres, avoir une vision spirituelle de la présence de Dieu. On doit tous connaître la présence de Dieu. Et comme Grégoire a dit, c'est véritablement dans la rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, que les hommes et les femmes peuvent être libérés. Peuvent être vraiment libres. Et on a besoin de pouvoir vivre, même si ce n'est pas aussi clair que ce qu'Ésaïe a vécu, on a besoin de vivre quelque chose, en tout cas, de ce qu'il a vécu. Et au chapitre 6, il est dit: « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe ou de son manteau remplissaient le temple. » Un peu plus loin, oui, donc il est question des séraphins au deuxième verset, et il est dit au verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. On voit que ici, la maison ou le temple, dans la vision de Ésaïe, était rempli de fumée. On voit aussi que le temple était rempli du vêtement du Seigneur. Et quand vous regardez dans 2 Chroniques 5, 6 et 7, où il est question du temple à Jérusalem construit par Salomon, eh bien là aussi il est question de la fumée, de la nuée qui remplissait le temple. Voilà quelque chose d'important. Et le titre de mon message, c'est rempli, être rempli ou remplir. Voilà le choix entre être rempli ou remplir. Et ici, ce temple était rempli de la présence de Dieu, manifestée par la nuée, manifestée par le vêtement. Et la question, c'est est-ce que nos vies, parce que l'apôtre Paul a dit clairement, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a désiré mettre son esprit dans nos vies. Il a décidé que ça ne serait plus dans un temple bâti de mains d'hommes, mais qu'il mettrait son esprit dans les hommes et les femmes qui s'ouvrent à cet esprit de Dieu et qui font cette rencontre avec Dieu. Et la question, c'est est-ce que nos vies sont remplies du Saint-Esprit? Est-ce que nos vies sont remplies de la présence de Dieu ou est-ce que nous avons quelque chose de Dieu dans nos vies, mais nous avons aussi d'autres choses? Il y a une différence magistrale entre quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui a juste une partie de sa vie, peut-être la plus importante de sa vie, où il y a le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a d'autres choses qui viennent. Et on va voir un peu les caractéristiques ici. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans 2 Chroniques chapitre 5? Quand Salomon a construit le temple, il a fait l'inauguration du temple, et il nous est dit deux choses importantes. Il nous est dit qu'il y avait donc, comme je l'ai signalé tout à l'heure, la fumée qui était dans le temple. Et il est dit que les prêtres, les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer à cause de cette présence de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire, n'est-ce pas? Les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans le temple. C'est pas que les sacrificateurs étaient mauvais et que la présence de Dieu donc ne pouvait pas supporter des hommes mauvais comme ça. Ils étaient institués par Dieu. Ils avaient leur place dans le temple. C'était même un commandement de Dieu. C'était à eux, effectivement, d'être dans le temple. Mais la présence de Dieu était tellement réelle que il ne pouvait pas rentrer. Non, je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Et ce qui me frappe, c'est que dans nos vies où nous sommes Nous qui nous réclamons comme étant remplis de l'Esprit ou ayant reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, est-ce que dans nos vies, il y a une telle présence de Dieu qu'en fait, les autres choses ne peuvent pas rentrer, même les sacrificateurs. Il y a des gens qui ont tellement la communion est intime avec Dieu, et c'est ça que le Nouveau Testament veut pour les hommes et les femmes, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir toujours les conseils d'un pasteur, d'un ancien, d'un prêtre, d'un quelqu'un, d'un sacrificateur, quelqu'un qui aurait un rôle sacré, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu est présent, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent rentrer dans la vie pour contrôler, pour diriger, pour faire les rituels. Mais souvent, nous qui sommes pauvres dans l'Esprit de Dieu, eh bien, on est obligé de faire appel à tout un tas de choses. On est obligé de faire appel à des ouvrages qui vont traiter de tel et tel aspect de la parole de Dieu. On va devoir faire appel à tel et tel site d'Internet, quelquefois bon, quelquefois mauvais, j'allais dire quelquefois bon et souvent mauvais, pour nous conseiller, pour nous orienter, pour qu'on puisse savoir dans quelle direction aller. Mais vous savez que quand il y a la présence de Dieu qui est dans une vie, eh bien c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Parce que ce qui remplit votre vie, c'est ça qui va diriger vos comportements, c'est ça qui va diriger vos actions, c'est ça qui va diriger vos pensées, c'est ça qui va diriger vos actes, vos paroles, vos réactions. C'est ce qui est à l'intérieur de l'homme et des hommes et des femmes qui dirigent leur réaction et leur façon d'agir. C'est pour ça qu'on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu, comme enseigne l'apôtre Paul. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, quand il remplit une vie, qui va conduire la vie, et qui va diriger les comportements, qui va orienter les comportements dans une direction. Et c'est ça qu'on a besoin. Le problème, c'est que nous avons si peu de l'Esprit de Dieu dans nos vies, que nous avons besoin aussi de lois, n'est-ce pas, de règles, de commandements. Mais vous savez que Dieu a donné les commandements dans l'Ancien Testament parce que les hommes et les femmes n'avaient pas... Il y avait certains qui recevaient le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais ils n'étaient pas... C'était pas offert et ouvert à tous. C'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit s'est répandu et peut se répandre sur toute chair. Mais donc, il y avait les lois et les commandements qui dirigeaient. Et combien de fois dans la vie des chrétiens, on est dirigé par des « il faut pas, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, il faut... » Au lieu de juste marcher selon l'Esprit de Dieu et dans la crainte de Dieu, de sorte que la vie est libre de faire la volonté de Dieu. Pas besoin d'être toujours en train de dire « est-ce que je fais mal, est-ce que je fais bien ?» Mais qu'est-ce qui remplit nos vies? Alors, dans beaucoup de cas, c'est le manque. Ce n'est pas le vide. C'est le manque. Il me manque ceci. Il me manque cela. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas. Et c'est ça qui oriente nos comportements souvent, c'est le manque. C'est-à-dire, j'aimerais tant... J'ai des désirs, j'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai des choses que je voudrais avoir. Et c'est ça qui oriente mon comportement, c'est ça qui dirige ma conduite. Et on est conduit par le manque plutôt que par la plénitude du Saint-Esprit. Voyez la différence. C'est que le manque, c'est moi qui utilise ce terme ici, mais dans la... Le Nouveau Testament, c'est appelé la chair, n'est-ce pas? Et si on marche selon la chair, on accomplit les désirs de la chair, eh bien, on ne peut pas accomplir les désirs de l'Esprit de Dieu. Mais la chair est toujours avec ses manques. Vous êtes toujours en train, sur un plan humain, vous comme moi, toujours en train de vouloir quelque chose pour compenser, pour ramener un équilibre. Et c'est ça qui va nous diriger, qui va diriger nos pensées, qui va orienter nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos décisions, nos actions. Dans le Nouveau Testament, on voit la question de la plénitude. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire oui, j'ai reçu Dieu dans sa plénitude, j'ai reçu Jésus-Christ. Dans la plénitude, il m'a donné toute la plénitude de sa divinité. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, ça, dans les écrits de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, il vient pour remplir, pas pour créer un manque. Il vient pour remplir ce manque, ce vide dans tous les domaines de votre vie. Mais la question, c'est est-ce que vous avez crié à Dieu? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire seulement de le prier. Ça veut dire aussi de le désirer du fond du cœur. Oui, Seigneur, je viens vers toi ce matin. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu veux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune religion qui propose ça. Il n'y a aucune religion sur la terre où il y aurait un Dieu qui dit, voilà, je veux remplir de ma présence les hommes et les femmes pour qu'ils soient conduits par ma présence, pour qu'ils soient conduits comme la nuée, n'est-ce pas, qui conduisait le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte vers la terre promise. C'est merveilleux. Et cette nuée, elle était extérieure, ils pouvaient la voir. Mais là, ce serait une nuée qui serait intérieure, qui remplirait votre vie et qui vous conduirait, qui conduirait vos comportements. Et alors que votre vie se remplit de l'Esprit de Dieu, le manque n'a plus sa place. Et ça disparaît. C'est pas « Oh, il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête cela, il faut que je fasse tous les efforts. » C'est que l'Esprit de Dieu vient remplir notre vie. Et les choses qui nous lient, les choses qui orientent nos pensées, qui orientent nos comportements, qui font que nous faisons tant de choses que nous ne voudrions pas faire, eh bien ces forces qui s'exercent sur nous disparaissent parce que c'est remplacé par la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez la présence de Dieu dans vos vies ce matin? Est-ce que vous pouvez dire, oui Seigneur, moi je veux ça pour ma vie, pour mes proches. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Oh, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de prier, de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Comme je dis souvent, ils ont peur que, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre le contrôle. Mais oui, parce que le contrôle, précisément, c'est parce que vous avez un manque de contrôle dans votre vie. Vous avez peur de perdre ce contrôle. Et vous avez besoin de laisser le Seigneur. La foi, c'est ne pas avoir le contrôle sur la situation. Si vous avez un contrôle sur toutes les situations, vous n'avez pas besoin de la foi. Vous gérez tout, vous contrôlez tout, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de la foi. Mais quand on n'a pas le contrôle, on a besoin de la foi et on a besoin de laisser le contrôle de nos vies au Saint-Esprit. Parce que c'est précisément ça qu'il va faire. Oui, il va vous utiliser. Oui, il va peut-être vous surprendre. Peut-être que vous allez changer radicalement. J'espère qu'on changera radicalement par la plénitude du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui vient dans nos vies et qui nous remplisse. Ça veut dire chez soi, il faut désirer, il faut chercher ça. Ce n'est pas une deuxième expérience, c'est la logique de la nouvelle naissance. C'est de dire, voilà, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, mais je veux pas me contenter de l'avoir reçu. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai reçu. Ce n'est pas qu'il y a un manque, c'est que juste, je veux connaître cette expérience de Dieu qui remplit toute ma vie, tous les domaines de ma vie. Après avoir dit dans 2 Chroniques, chapitre 5, le dernier verset, que les prêtres ne pouvaient pas rentrer, les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer, parce qu'il y avait la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas rentrer dans ce temple. Eh bien, Salomon a dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et ça, c'est important de savoir. Pourquoi l'Éternel veut-il habiter dans l'obscurité? Alors, je pense que la raison, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait d'autres lumières, parce qu'il est la lumière. Et quand l'Éternel habite dans l'obscurité, c'est la lumière qui apparaît. Mais c'est la seule lumière qui apparaît, c'est la lumière de Dieu. Le problème, c'est que nous avons les uns et les autres d'autres lumières dans nos vies. Oui, il y a la lumière de Dieu, certes, elle est là. Ça se voit, vous avez des témoignages, vous pouvez dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, voilà un jour j'ai reçu la lumière. Si vous ne pouvez pas le dire, alors il faut régler ce problème aujourd'hui. Il faut rencontrer Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous recevez la lumière de Dieu dans vos vies, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que probablement il y aura d'autres lumières dans vos vies qui vous éclairent, d'autres choses qui sont en train de briller dans vos vies. Et le Seigneur n'aime pas ça, parce qu'il est le Dieu de la plénitude. Il est le Dieu qui remplit totalement les vies des hommes et des femmes. Et donc, s'il y a d'autres lumières, sa lumière n'a plus vraiment de sens, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je pense, Salomon a dit que l'Éternel aime habiter dans l'obscurité. Oui, le monde est ténébreux. Oui, le monde est sale. Oui, c'est les ténèbres. Mais le problème, c'est que quelquefois les chrétiens disent, voilà, nous avons reçu la lumière. Mais ils gardent d'autres lumières, ce qui fait que la lumière de Dieu s'en va ailleurs. Elle s'en va là où il y a de l'obscurité. Et quand vous allez prêcher l'évangile dans certains quartiers, des bas-fonds, des grandes villes, eh bien, quand quelqu'un prêche tout simplement l'évangile, à condition que ce soit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu. Il y a la lumière. Il y a les gens qui commencent à pleurer, touchés par le Saint-Esprit. Alors que dans les églises, quand on prêche de Jésus-Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit, les gens sont rassasiés. Ils pensent plutôt à d'autres choses. Moi, en premier, on pense plutôt à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va faire ce midi? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Quand vous allez dans certains endroits où les gens sont dégénérés par le péché, ils sont dans les ténèbres, eh bien, ils entendent la lumière, ils voient la lumière et ils sont touchés par la grâce de Dieu. Mais j'ai peur que la lumière de Jésus-Christ s'en aille des milieux d'église pour aller s'implanter dans certains endroits où on dirait « mais c'est les ténèbres ». Les pharisiens, les gens qui étaient bien religieux, qui avaient bien la lumière des 10 commandements et de la loi dans leur cœur qui brillait, étaient choqués que Jésus aille chez les prostituées, les gens de mauvaise vie. Mais c'est parce que la lumière brille dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et on a besoin de connaître, de reconnaître que dans nos vies, il y a d'autres lumières. On a besoin de dire au Seigneur, tu éteins ces lumières, vous savez lesquelles? Vous savez quelles sont les lumières qui orientent votre vie, peut-être l'ambition, peut-être certains désirs particuliers. Vous devez demander, Seigneur, que cette lumière s'éteigne et qu'elle laisse place à ta lumière. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que ta lumière remplisse ma vie. Il faut que ma vie soit dans la lumière totalement. Il est dit ici, dans ce qu'on a lu, que le manteau qui revêtait Dieu remplissait le temple. Est-ce que le manteau de Dieu remplit votre vie? Vous savez que cette femme dans le Nouveau Testament qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait une perte de vie depuis 12 ans. Aucun espoir pour son avenir. Elle savait une chose néanmoins. Les médecins étaient son espoir avant, c'est la lumière de la médecine était là pour elle, mais cette lumière s'est avérée de plus en plus faible, comme son compte en banque. Et il n'y avait plus d'espoir. Et quand la lumière s'est éteinte, eh bien, elle a entendu parler de Jésus. Et donc elle s'est approchée de Jésus, elle savait une chose, c'est que si elle touchait le pan de son vêtement, elle serait guérie. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ce matin? Est-ce que je suis prêt à faire ça ce matin? Est-ce que ma vie est revêtue du manteau, du même manteau qui revêt Jésus-Christ? C'est extraordinaire, qui revêt Dieu, le même manteau. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu vient habiter dans notre vie. Et là, il est dit que le manteau de Dieu qui était sur le trône élevé, eh bien, remplissait le temple. Donc, ça veut dire que ma vie serait remplie de ce manteau. Ce manteau qui donne la délivrance. Parce que vous perdez votre vie. Parce que vous êtes en train de perdre les années si riches que vous avez devant vous. Vous êtes en train de perdre peut-être votre vie spirituelle sous forme d'hémorragie. Je ne devrais pas dire hémorragie s'il s'agit de la vie spirituelle, mais et vous avez besoin de toucher le manteau de Jésus. Vous avez besoin qu'il remplisse votre vie de sorte à ce que constamment, constamment, vous pouvez le toucher. Mais si on regarde, ça m'a frappé parce que dans Ésaïe 59, vous lirez Ésaïe 59 chez vous aussi, ça vous fait de la lecture dans Ésaïe aujourd'hui, eh bien, dans Ésaïe 59, il est dit que le manteau dont Dieu se pare, c'est le manteau de la jalousie. Oh, alors là, on n'est pas trop content parce que il y a la question de la jalousie, c'est pas bien. On dit à nos enfants, et puis même l'apôtre Paul, d'ailleurs, dit qu'il ne doit pas y avoir de jalousie, n'est-ce pas, entre les chrétiens. Et ici, il se revêt du manteau de la jalousie, qui peut se traduire par le zèle, l'ardeur. Et le débat à ce niveau-là n'a pas de sens, parce qu'il y a deux formes de jalousie. Il y a la jalousie parce qu'on veut remplir une vie ou quelque chose et quelqu'un d'autre a rempli la vie à la place de nous. Et donc il y a une jalousie et ça c'est la jalousie de Dieu. Dieu veut remplir les vies, mais il y a d'autres puissances, d'autres choses qui remplissent la vie des hommes et des femmes. Et c'est ça qui excite la jalousie de Dieu. C'est pour ça qu'un homme peut être jaloux de sa femme et une femme peut être jalouse de son mari. Quand elle sait ou il sait que ce n'est pas lui ou elle qui remplit la vie de son conjoint. Ça crée de la jalousie et c'est une jalousie raisonnable, tout à fait normale, tout à fait acceptable. C'est normal qu'une femme qui est trompée par son mari soit jalouse. C'est normal. Mais il y a une autre forme de jalousie qui est inacceptable. Il y a une autre forme de jalousie, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais je vais rester sur cette forme de jalousie. Dieu veut remplir les vies et il n'accepte pas qu'il y ait quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui vient faire concurrence, qui vient de prendre la place. Et les hommes et les femmes qui veulent remplir les vies des autres, vous savez, il y a des gens comme ça, qui veulent à tout prix remplir, je ne parle pas de remplir la vie de leur conjoint, mais remplir les uns et les autres, ils veulent diriger les vies des uns et des autres. Eh bien, Dieu leur dit quelque chose de très important. Et vous le lisez dans Romains 12, c'est cité de l'Ancien Testament. Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », autrement dit « à moi la jalousie ». Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Autrement dit, il est en train de dire « c'est pas à toi d'essayer de remplir les vies des hommes et des femmes. C'est pas à toi d'essayer de contrôler les situations. Peut-être que vous essayez de contrôler les situations, vous avez quelqu'un à cœur. » Vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas au Seigneur et vous voulez essayer de contrôler ces situations, vous voulez essayer de télécommander sa vie, votre rêve serait qu'un jour le Seigneur vous mette sous l'oreiller pendant que vous dormez une télécommande et vous appuyez discrètement et puis voilà, la personne en question va se mettre à genoux et va commencer à prier. Puis vous dire, c'est génial. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas contrôler la vie des gens. Le Seigneur dit, c'est à moi, c'est mon rôle. Et le problème des gens, c'est qu'au lieu, le problème de chacun d'entre nous et moi en premier, c'est qu'au lieu de demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit et de remplir du Saint-Esprit les personnes que nous aimons et que nous connaissons, on essaye de remplir leur vie par notre influence. Et les gens sont remplis, il y a des gens qui sont remplis d'un prédicateur, il y a des gens qui sont remplis d'un pasteur, il y a des gens qui sont remplis d'un ancien, il y a des gens qui sont remplis d'un conseiller conjugal, d'un conseiller d'église, etc. Ils sont remplis et puis ils font ce qu'ils disent, ce que la personne dit. Mais on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tout ce que ça fait, ça crée la jalousie de Dieu au point que Dieu doit dire à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à moi d'être jaloux. C'est pas à vous. On ne doit pas remplir la vie des gens. On ne peut pas contrôler le comportement. On doit laisser l'Esprit de Dieu agir. Et quand l'Esprit de Dieu agit dans votre vie personnelle, les gens que vous aimez autour vont voir la différence. Mais si votre différence, c'est « je suis pareil qu'avant », mais c'est différent quand même. Hein? Pourquoi c'est différent? Ben parce que ben maintenant je crois et avant je ne croyais pas. Ça ne change pas grand-chose. Et le monde chrétien, les églises essaient de s'adapter au monde, n'est-ce pas, pour ne pas choquer. Pour ne pas heurter. Il faut qu'on soit pareil comme ça. Vous savez, c'est comme à la SNCF, ils essayent maintenant d'avoir le... Avant, il fallait grimper des marches, c'était haut, c'était très difficile pour les gens qui avaient du mal à monter. Mais maintenant, c'est au niveau de la plateforme. C'est très pratique. C'est très, très bien. Mais on fait la même chose avec l'Église. On la met au niveau du monde pour que les gens puissent passer de l'un à l'autre, comme ça, et puis ils trouvent que c'est pareil. Il n'y a pas de problème, c'est génial. Mais on est là pour annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, c'est radicalement différent. L'œuvre de Dieu, elle est radicale dans les vies. Elle change. Et ce que les hommes et les femmes autour de nous ont besoin, c'est de savoir que vous êtes remplis du Saint-Esprit, qui peuvent le témoigner, qui ne peuvent pas rentrer dans votre vie tellement elle est sainte, tellement il y a la présence de Dieu. Ne peuvent pas vous diriger. Les prêtres qui étaient censés, les sacrificateurs qui étaient censés diriger le temple ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit agit et le Saint-Esprit, comme il est dit, comme Jésus a dit, celui qui a soif vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça se communique. Les gens auront soif, n'est-ce pas? Ils voudront le Saint-Esprit. Je veux ça. Je veux ça. C'est ça que je veux. Je me rappelle, moi, quand j'étais adolescent, avoir entendu et vu des gens. Et j'ai désiré avoir ce qu'ils avaient. Voilà le témoignage. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà le temple qui honore Dieu sur la terre, qui est comme le temple de qui était Jésus-Christ. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Je vais juste dire quelques mots sur la suite de cette vision, mais que le Seigneur nous fasse connaître cet aspect que je viens de mentionner. Lorsque Ésaïe a eu cette vision, il a pris conscience de son péché, n'est-ce pas? Et il a pris conscience du péché de son peuple. Il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi parce que je suis impur. C'est nécessaire de passer par cette confession. C'est nécessaire de passer par ce vrai ressenti de notre impureté. Et on a fait les uns et les autres des choses qui nous ont rendus impurs. Ici, les questions des lèvres. Parce que dans nos sociétés, on a la conception de certains péchés qui rendent impurs. Mais les lèvres rendent impurs aussi. Vous savez qu'une critique, quand je dis critique, c'est-à-dire quelque chose de méchant, dit sur un frère ou une sœur, ça vous condamne, comme a dit Pascal, quand on enfreint un commandement, on enfreint tous les commandements. Quand vous avez menti, n'est-ce pas, une fois, pourquoi le mensonge, c'est grave? Pourquoi l'apôtre Paul dit ne mentez pas les uns aux autres? Parce que le mensonge, c'est l'antichrist, puisque Christ est la vérité. Ce qui est opposé à la vérité, c'est le mensonge. Vous êtes en train d'utiliser la parole qui est Jésus-Christ et vous en faites quelque chose de faux. C'est quelque chose de terrible. Donc on doit savoir qu'on a les lèvres impures. On doit le ressentir. Mais ce n'est pas dire, ah oui, j'admets que j'ai menti, etc. Pardonne-moi, Seigneur, au fait, pardonne-moi. C'est vraiment ressentir cette conviction comme Ésaïe l'a ressenti et il a pu demander à Dieu de vraiment le purifier, n'est-ce pas? Et ce matin, c'est peut-être ici, c'était la conséquence de la vision, la conséquence de cette vision du temple, mais c'est peut-être la première étape pour certains d'entre vous, certains d'entre nous. C'est d'abord de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies. J'ai besoin que tu me laves et voyez que ce n'était pas long. Ce n'était pas un processus, ah ben oui, il va falloir, mais il y a du boulot, il y en a pour des mois de travail. Donc on ne le fait pas, parce qu'on voit. Ici, c'est immédiatement l'un des séraphins est allé prendre sur l'autel un charbon ardent, il l'a mis sur les lèvres d'Ésaïe. Oui, ça fait mal, mais ça purifie. Et on a besoin d'être purifié, n'est-ce pas, en premier lieu, pour certains d'entre nous, d'être lavé, d'être sanctifié, et on a besoin de pouvoir continuer comme ça dans la vie nouvelle que Jésus-Christ nous donne, de pouvoir dire, voilà Seigneur, maintenant remplis-moi du Saint-Esprit. Je vous engage et je m'engage moi-même à la maison, chez vous. Vous n'allez pas le faire publiquement. Ici, mais à la maison, chez vous, de chercher le Saint-Esprit davantage. Vous le cherchez tous les jours. La plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas chercher des manifestations, vous cherchez le Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même. Et vous verrez comment votre vie va commencer à changer. Comment les plaintes vont disparaître. Comment les critiques vont disparaître. Comment les paroles dur, comment les mensonges vont disparaître, combien les apparences vont disparaître, comment les mauvaises pensées vont disparaître. Oui, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça qui va diriger votre vie. Si on demande, c'est ça qui va diriger nos vies, si on demande au Seigneur. Donc on va juste prier là maintenant, mais cherchez chez vous vraiment la présence de Dieu dans vos vies en permanence. Seigneur, tu es un Dieu jaloux, la Bible dit cela clairement. Et la jalousie chez toi est normale, elle est pure. Parce que c'est toi qui désires remplir les cœurs et les vies, c'est ça ta volonté. Et tu ne peux pas supporter, Seigneur, quand Jésus est venu sur la terre, à deux reprises il a chassé les vendeurs du temple. Il les a chassés du temple de Dieu, il a dit « vous avez fait de la maison de mon Père, une caverne de voleurs. » Et Seigneur, tu veux faire la même chose dans nos vies, tu veux nous purifier, mais tu veux d'abord chasser les choses qui ne doivent pas être là. Les autres lumières, Les vendeurs de temples ne faisaient pas forcément de mal. Certains, probablement, qui ont eu l'étal renversé, eh bien, étaient des gens honnêtes. Mais Seigneur, tu ne supportais pas et tu avais le droit, parce que tu es un Dieu jaloux. Tu ne supportais pas qu'il y ait quelque chose d'autre à la place de Dieu. Et Seigneur, que dans nos vies, nous n'essayons pas de rentrer dans la vie des gens pour les diriger, pour les contrôler, mais que nous puissions prier, que le Saint-Esprit agisse, que tu agisses dans cette Église. Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit manifesté, que cette année scolaire, on puisse voir, Seigneur, la gloire de Dieu, et que la gloire revienne à Dieu seul. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit à l'œuvre, que l'Esprit de Dieu agisse dans les vies des frères et des sœurs, dans nos vies, dans ma vie, de telle sorte à ce que le monde ait envie, Seigneur. Que tu fasses ce miracle de nous transformer à ton image. Et Seigneur, nous te prions que, au lieu de contrôler les vies des autres, nous puissions nous laisser contrôler par l'Esprit de Dieu, dirigés par l'Esprit de Dieu, que les uns et les autres aussi qui nous observent puissent être conduits par l'Esprit de Dieu. Que ce soit vraiment le miracle de ton œuvre ici qui se fasse à Hasbrouck. Amen.